Bonsoir Lucie Azéma.
Bonsoir.
On va partir en voyage avec vous ce soir et ça m'enchante, avec une saison à Téhéran qui est sortie aux éditions Les Corps Conducteurs. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir une pensée en persan ?
Non, pas encore, mais j'aimerais. Mais ça m'est arrivé de rêver en persan, mais en tout cas d'avoir des pensées immédiates, non. Et c'est aussi ce que je raconte dans le livre, c'est que c'est le... Ma vision, une deuxième langue ou une troisième langue, c'est une renégociation du réel. Et donc mes pensées brutes sont en français le plus souvent, parce que c'est aussi ma langue de travail. Mais plus rarement en persan. Mais un jour peut-être.
Il n'y a pas de mots tout d'un coup qui vous viennent à l'esprit. Parce que alors moi, après avoir vu votre livre, d'abord je suis fascinée. C'est l'écriture, les sonorités sont incroyables. Je pense que je ne me risquerai pas à le dire parce que je n'y arriverai pas. Mais on a la sensation qu'il y a des mots qui vous ont marqué.
Oui, il y a des expressions surtout. Des expressions du quotidien qui sont liées aussi aux liens avec les gens. Pour prendre un exemple, par exemple, j'aime beaucoup Dastetundar Nakone. C'est une façon de dire merci et qui veut dire littéralement que ta main n'est pas de douleur quand on rend service à quelqu'un. Ça, c'est des expressions qui sont très courantes au quotidien et qui me plaisent beaucoup.
Je le disais, dans ce livre, on part en voyage avec vous en Iran, en tout cas dans un Iran avant 2022, donc un Iran dans lequel vous avez habité à Téhéran. On vous suit dans d'autres villes dans ce voyage et on découvre une culture, une terre, un accueil. On a envie de rester là, on est à l'intérieur de ce livre, on voudrait ne jamais en sortir. Et dans ce livre, vous dites que l'Iran est bavard. Que des librairies, en fait, il y en a partout, à tous les coins de rue, que tout se raconte en mots en Iran. Vous parlez de livres qu'on consulte en ouvrant des pages pour se raconter. Alors quoi, cette terre, vous êtes tombée amoureuse parce qu'il y a du texte?
Je pense en partie, en grande partie, oui. Il y a eu... je suis tombée amoureuse de la langue persane et de son apprentissage, mais effectivement, je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est le fait que l'Iran soit tellement une terre de littérature et notamment de poésie classique, et que la poésie fasse partie du quotidien, qu'elle infuse vraiment tout le quotidien, que on dit souvent que tous les Iraniens sont capables de citer des vers, soit de poètes persans, soit même de poètes français. C'est un cliché, mais qui est vrai. Et notamment, ce à quoi vous faites référence, c'est le Fol-e Hafez, donc qui est une pratique, une tradition qui a lieu notamment pour Nowruz, qui est le nouvel an persan, qui est le 21 mars à l'occasion du printemps. Et donc, en fait, il faut formuler une pensée, une question, un doute sur quelque chose. On prend le divan de Hafez, donc le grand poète persan, et on l'ouvre au hasard. Et là, il y a un poème qui tombe, quand on ouvre, et la réponse est dedans. Sauf que Hafez, ça reste très symbolique et sujet à beaucoup d'interprétations. Donc c'est aussi une excuse pour discuter, pour chercher dans les mots, de dire « mais si, regarde, c'est ça ». Et c'est vraiment des moments que j'aime beaucoup. Et le fait qu'il y ait... Voilà, les poèmes soient tellement vivants, que la poésie soit tellement vivante, c'est forcément quelque chose qui m'a séduite, oui.
Et il y a une culture de la poésie, il y a quelque chose de délicat dans votre façon de raconter l'Iran, à la fois dans vos descriptions et dans la langue que vous employez. L'écriture est magistrale pour ce livre. Vous dites que le persan est une langue qui miaule et qui vous électrise, c'est-à-dire ?
C'est une langue qui a beaucoup de... A, donc des A ouverts, et de CH. Donc c'est une langue qui... Et surtout l'intonation. Et vraiment, ça s'étire sur les fins de phrase. C'est vraiment le signe du persan. Et généralement, les persanophones qui parlent en d'autres langues, que ce soit l'anglais ou le français, ont aussi ce réflexe de faire traîner la fin de la phrase. Et c'est quelque chose qui m'électrise. Mais aussi toute la grammaire, ça fait partie de ces langues... que moi j'aime beaucoup, où le verbe est à la fin, donc on a vraiment l'impression de se mettre en selle et de monter sur un cheval et de dévaler toute une phrase jusqu'au verbe final. Il faut vraiment attendre la fin de la phrase pour savoir où on va, et ça me plaît, même si forcément en tant que francophone c'est plus difficile de vraiment de de se l'accaparer. Mais en tout cas, à l'oreille ou à la, enfin, dans les conversations, c'est vraiment quelque chose qui m'électrise. C'est le mot que j'emploie dans le livre parce que dès que j'entends du persan, ça me... C'est vraiment... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça avec d'autres langues. Moi, c'est le persan, mais c'est vrai quand il y a une langue qu'on aime tellement, de l'entendre, déjà, ça fait voyager aussi. On a vraiment l'impression d'être dans ce pays, juste de l'entendre. Et le persan a cet effet sur moi.
Vous parlez d'habiter la langue. Et vous aimez, en fait, les langues étrangères. Qu'est-ce que vous entendez par habiter la langue ?
Pour le persan et pour d'autres langues, mais surtout le persan, parce que c'est vraiment la langue étrangère qui a retenu mon attention. Après, je suis un peu touche-à-tout en langue. J'ai essayé beaucoup de langues et je suis un peu une passionnée de grammaire. Et donc, forcément, il y a beaucoup de langues où j'ai juste voulu apprendre le système sans forcément pratiquer. Mais le persan, dans le livre, je parle de la métaphore de la maison. En fait, j'ai l'impression que le persan est une pièce dans ma maison, une pièce que je n'ouvre pas toujours, mais qui est là et qui fait partie en fait des fondations et qui fait que ma maison est complète. Je suis toujours aussi une invitée dans cette pièce, c'est-à-dire que j'ai toujours éprouvé beaucoup de jalousie des gens qui sont nés avec la langue persane et sur qui elle déferle tellement facilement quand moi je suis encore en train de toujours en phase d'apprentissage pour une vie entière, forcément, et elle sera jamais mienne complètement. Ça sera toujours une langue seconde ou troisième. Mais c'est ça, c'est la place qu'elle est dans ma vie, c'est la place qu'elle a dans ma vie, pardon. Et c'est en ça qu'elle est tellement, tellement importante.
Avez-vous trouvé, même si vous ne me l'expliquez pas à moi, j'entends par là que je ne veux pas être intrusive, mais avez-vous trouvé la raison qui fait que vous avez une telle familiarité avec l'Iran ?
C'est une vraie question. C'est aussi une des questions que je me pose souvent parce que c'est un peu aussi ce qui a été difficile quand j'ai commencé ce livre. C'est aussi pour ça que c'est mon quatrième livre, alors que ça aurait pu en fait être le premier. Et que je commence, d'ailleurs, j'ouvre le livre en disant « Je m'étais promis que j'écrirais jamais de livre sur l'Iran. » Donc, c'est vraiment l'histoire d'une promesse brisée avec moi-même, ce livre-là. Et en même temps, peut-être pas. J'en avais besoin. C'est aussi une façon de... En fait, j'avais l'impression que si je ne racontais jamais vraiment ce qui s'était passé entre moi et l'Iran, j'enlevais toute une partie de ma réalité. Pourquoi l'Iran en particulier, je ne l'explique pas. Et c'est une question qu'on m'a beaucoup posée parce que c'est particulier d'aimer l'Iran, malheureusement, dans le contexte qu'on connaît. Et donc, quand on est allé en Iran, quand on connaît l'Iran, ça paraît très naturel pour les gens qui connaissent. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, quand on a une image extérieure, ça paraît étrange d'être tellement tombée amoureuse d'un pays qui, en plus, enfin, qui n'est vraiment pas du tout le mien. Mais je prends souvent cette métaphore pour dire que l'Iran n'appartient pas à mes racines, mais qu'en fait, il s'est mis à faire partie de mes branches et de mes feuilles, et que c'est devenu aussi, comme je le disais, une part très importante de ma réalité, et qu'il le sera toujours. Et ce livre a soulagé cet aspect-là, parce que j'ai toujours pas trouvé la réponse à votre question, que je me pose aussi. Mais en tout cas, il a soulagé le fait que c'est là. C'est, comme je le disais, une pièce de ma maison et ça sera toujours là, quoi qu'il se passe. Et j'en suis... Ça me complète, en fait.
Votre écriture très délicate, à peu près autant que celle que vous utilisez là, pendant cet échange avec moi, nous invite à considérer l'amour qu'on peut porter à un pays comme un amour qu'on peut porter à quelqu'un. Est-ce que vous avez cette sensation, ce livre, on a l'impression que vous auriez pu l'écrire sur un grand amour, sur une histoire d'amour qui se termine à un moment donné. On a l'impression que le vocabulaire pourrait être le même et la géographie, pas loin.
Absolument. Je pense que l'amour pour les pays, ou en tout cas, en règle générale, l'amour pour les lieux, pour les territoires, pour des espaces, en fait. Et je pense que c'est... Voilà, on est toutes et tous traversés par des lieux. On les traverse aussi, mais disons qu'ils font aussi partie de notre passé, de notre enfance. On a tous des lieux qui ont beaucoup compté, qui comptent toujours et qui, en fait, qui ont aussi cristallisé notre vision du monde. Et il y a plusieurs lieux comme ça pour moi. Et Téhéran, plus que l'Iran, je dirais Téhéran, à cristalliser certaines visions du monde, certaines façons de, par exemple, d'envisager les relations humaines, d'envisager le lien. Je parle beaucoup d'amitié aussi dans le livre. Donc, il y a tout ça. Et c'est effectivement, ça pourrait être le registre de l'amour. Et comme avec les langues aussi, c'est, on crée une relation. C'est des endroits qui partent de notre vie, qui reviennent. Donc, c'est tout à fait comparable avec des relations amoureuses et aussi le registre du deuil, quand on doit quitter un endroit, quand on ne peut plus y retourner pour telle ou telle raison, peut aussi faire penser aux relations. Ouais.
Dans ce livre, vous avez parlé d'amitié, mais vous parlez aussi d'exil, vous parlez aussi de voyage. Ce n'est pas la première fois dans votre écriture, Lucie Azéma, qu'on retrouve ces thématiques-là, même si celui-ci est très différent. Qu'est-ce que vous avez appris en écrivant ce livre sur l'exil et sur vous-même?
Je pense que je n'ai pas fini cette quête. Je pense que tout est parti. Enfin, de toute façon, la question du voyage, de l'exil et justement de ce que je disais un peu avant sur les lieux, je pense que c'est une petite obsession que j'ai et qui j'essaye de répondre à ça à travers tous mes livres. Là, j'ai, je pense, touché quelque chose de plus personnel parce que c'est la première fois que j'écris un livre où je pars du jeu et je mets aussi des aspects sur l'histoire de l'Iran. Mais là où mes précédents livres étaient des essais, et de temps en temps, je mettais un peu de jeu. Donc, j'ai essayé vraiment d'aller vraiment au fond de ce que représente pour moi le voyage et l'Iran qui représente tout ça chez moi. Qui est le lieu étranger, le lieu du voyage, qui a vraiment fait naître aussi mon écriture sur le voyage et toutes mes questions. Mais je n'ai pas. C'est encore en processus. Et je pense que ça sera. Peut-être que je n'arriverai jamais au bout, mais de toute façon, je pense que ce qu'il y a de plus important dans une vie, c'est justement d'essayer de creuser et de s'approcher au bord de ce gouffre qui nous. Qui est tellement le centre de ce qu'on est, donc je tourne autour. Et peut-être qu'un jour j'irai, mais je ne sais pas.
Et finalement, aujourd'hui, quel est le pays dans lequel vous vous sentez chez vous?
Si les choses s'amélioraient, je pense qu'honnêtement, ça serait l'Iran. Ça fait des années que je le dis quand on me demande. Après, forcément, la France est mon pays où je suis née, donc c'est là où je me sens le plus naturellement chez moi. Mais il manque en France le fait que je me sens aussi chez moi quand je suis à l'étranger, parce que le fait d'être dépouillée justement de toutes les habitudes, de tous les réflexes qu'on peut avoir tellement facilement quand on est dans sa langue, dans sa langue et dans sa culture de naissance.
Oui.
Pour moi, pour me sentir vraiment moi-même et donc chez moi, j'ai besoin aussi qu'il y ait une part d'étrangeté. Et donc l'Iran est le pays qui se rapproche le plus de ça. Après, je ne sais pas où les choses iront pour l'Iran, mais voilà, en tout cas, oui.
Alors d'aujourd'hui, on en est là. Dans ce livre, vous démarrez ce livre et c'est très émouvant, puisque vous dites que à 28 ans, vous êtes à l'âge où votre seule préoccupation, c'est le bonheur.
Oui, j'écris que j'ai commencé la langue persane à 28 ans, à une époque où être heureuse me prenait tout mon temps, parce que quand je regarde maintenant de loin, c'est vraiment l'impression que j'ai, où j'étais vraiment... C'était une période de ma vie très, très heureuse quand je suis arrivée en Iran. Et donc, forcément, je pense que ça... Qu'est-ce qui a créé ce bonheur? Est-ce que c'est parce que j'étais tellement moi-même, tellement ancrée dans moi-même, que j'ai pu tellement m'ouvrir au pays? Ou est-ce que c'est le pays qui a eu cet effet sur moi? Je ne sais pas, en tout cas...
Il est question de ça.
Voilà.
Et c'est comme tomber amoureux, finalement. On ne sait pas très bien, mais il y a des circonstances. Et vous nous invitez à réfléchir aux circonstances qui font qu'on peut tomber amoureux aussi d'un pays. J'aimerais bien que vous m'aidiez à retracer une journée type à Téhéran avec vous, là, maintenant. J'aimerais bien qu'on se promène avec vous, parce qu'il est beaucoup question de ça. Déjà, on commencerait, si j'ai bien compris, par un petit déjeuner qu'on a tous envie de vivre après avoir lu votre livre.
Ah oui, c'est le petit déjeuner avec des noix et du fromage et du pain, qui est le petit déjeuner traditionnel iranien. Ça commencerait comme ça. Ça commencerait avec du thé aussi, qui est aussi, on l'aura compris, une part importante dans ma vie.
Au samovar.
au samovar. Après, maintenant, ils ont des samovars électriques en Iran. Donc, c'est le même principe que le samovar, c'est-à-dire qu'on a les deux théières qui sont séparées, mais l'objet samovar à la russe a disparu. Alors, ce qu'on ferait, c'est qu'on se baladerait, on sortirait. Téhéran est une ville qui est très verte. Il y a beaucoup d'arbres. Et là, en ce moment, ça devrait être magnifique parce que justement, il y a le début du printemps, donc il y a des fleurs partout. Et j'ai vraiment un souvenir de Téhéran au printemps où on se promène dans la rue et ça sent les fleurs, vraiment. C'est vraiment très agréable. Et donc, on marche et il y a beaucoup d'oiseaux aussi. Je parle beaucoup d'oiseaux dans le livre. Donc, on en entend beaucoup quand on se promène. Et ce qu'on pourrait faire, c'est se balader sur l'avenue Enghelob, qui est l'avenue de... Enghelob, ça veut dire révolution. Et qui est une rue que moi, j'aime... Enfin, qui est une avenue, en fait, techniquement. Mais qui... C'est celle des librairies. Donc, il y a énormément de librairies, de cafés. C'est aussi la rue des étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants parce que c'est un peu le centre des universités. C'est aussi tout un quartier où il y a des galeries d'art, aussi une vie artistique. Malgré la censure, il y a quelque chose qui subsiste. Et donc, on pourrait se promener là et on pourrait aller boire un thé ou un café dans des cafés de Enghelob. Ça pourrait être pas mal.
Et alors, si on prend le métro, il faut qu'on soit, tant qu'à faire, un petit peu en avance ou à l'heure pour être dans le bon wagon.
Ah oui. oui, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a... Donc, les wagons sont séparés entre hommes et femmes dans le métro. Après, techniquement, le wagon homme, c'est un wagon mixte. Donc, on peut aussi aller s'asseoir en tant que femme. Mais en tout cas, les wagons femmes sont les wagons réservés aux femmes. Et sauf qu'ils sont aux extrémités du métro.
Ouais.
Et donc quand on arrive, et si on est un peu en retard, généralement, si on veut vraiment atteindre le wagon femme, il y a beaucoup de chances pour qu'on loupe le métro si on n'est pas... Donc, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé beaucoup de fois.
Mais c'est un endroit dans lequel on est sûr de ne pas être enquiquiné.
Voilà, après, c'est des plus petits wagons, très remplis, donc il fait très chaud. Mais par contre, c'est très agréable parce que il n'y a plus, en fait, le regard masculin. Et en fait, donc, ne plus avoir le regard masculin, ça veut dire ce que déjà ça veut dire en France, c'est-à-dire quand même plus de légèreté, mais aussi en Iran, ça veut dire de pouvoir faire tomber son foulard, d'être plus à l'aise, en fait, physiquement. C'est aussi un... quelque chose qui est agréable, en fait. Le système, on peut le critiquer pour plein de raisons. C'est pas... Mais il y a des avantages qui sont pas toujours désagréables. Oui.
Oui, votre livre humanise un peu plus l'Iran, effectivement, qu'en ce moment, malheureusement, en tout cas en Europe, on a l'habitude de voir d'une façon presque caricaturale. Et là, vous nous invitez à observer les choses avec un peu plus d'intelligence, j'ai envie de dire. Alors, donc on serait dans ce wagon. Puis il y a une autre chose qui m'a frappée, c'est que dans ce wagon, on pourrait remarquer... Alors, on a loupé le wagon femme, on va dans un wagon mixte, mais finalement, on est nombreux à avoir un petit sparadrap sur le nez.
Oui, alors ça, c'est encore un cliché sur l'Iran, mais qui est totalement vrai, dont je parle dans le livre, c'est la rhinoplastie. En fait, de façon générale, en Iran, il y a beaucoup de chirurgie esthétique, mais quelque chose qui est très répandu, c'est la rhinoplastie. Et en fait, ce qui est assez surprenant, moi en tout cas, qui m'a surpris, auquel je ne m'attendais pas, c'est que c'est devenu un marqueur social et qu'il y a même des jeunes femmes qui gardent le pansement longtemps après s'être fait opérer, pour montrer qu'elles ont eu une rhinoplastie et que parce que c'est aussi un marqueur de progressisme. Il y a aussi l'aspect qu'en Iran, quand on est une femme, une des seules choses qui est visible sur nous, c'est notre visage, même si on sait maintenant que le foulard est porté très en arrière, voire plus du tout dans plein d'endroits dans le nord de Téhéran depuis 2022. Mais voilà, il y a ça aussi et c'est souvent un marqueur de vouloir montrer qu'on est plus éduqué, plus progressiste, on a fait sa rhinoplastie. Mais il y a aussi beaucoup d'Iraniens et d'Iraniennes qui déplorent ça. Hein. Évidemment, c'est pas quelque chose de complètement accepté socialement, mais qui est très très répandu.
Qui existe. Oui, ce qu'on va essayer ce soir, c'est d'éviter de faire autant de clichés dont on essaye de se débarrasser, tant qu'à faire. Mmh. Alors, ok, donc on a pris le métro, très bien, ressortons, arrivons ailleurs. Alors, on a quand même très très envie de voir, alors d'entendre les oiseaux, de voir des minarets et d'être dans un jardin, parce que vous avez des descriptions de jardins extraordinaires dans ce livre. Et merci, Lucie Azéma.
Les jardins persans, je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez connu quand même dans l'histoire.
Oui, oui.
Il y a de manière générale, les jardins arabo-persans. Et c'est... En fait, de façon générale, en Iran, l'extérieur est très important. C'est aussi pour ça que le Nouvel An persan est au moment du printemps. Le rapport à la nature, c'est une culture qui est très tournée vers l'extérieur. Et aussi, en Iran, il y a la culture des pique-niques, qui est vraiment... En Iran, on fait des pique-niques tout le temps. C'est vraiment... moi qui n'aimais pas trop les pique-niques avant, je trouvais ça assez pénible. Bah, là, j'ai vraiment appris à aimer ça. Et à comprendre, en fait, pourquoi c'est tellement un plaisir. Et donc, il y a les jardins historiques, mais de façon générale, il y a les parcs. Et on va beaucoup dans les parcs en Iran. Je raconte aussi qu'il y a la tradition de la glace nocturne en allant marcher dans les parcs, que moi j'ai beaucoup apprécié et qu'après j'ai refait même en n'étant plus en Iran. Donc voilà, le rapport à l'extérieur, et c'est aussi voilà, le rapport aux oiseaux, aux arbres, à la floraison. Tout ça, c'est le signe de l'espoir. C'est encore une fois le fait que le nouvel an iranien soit au moment du printemps, c'est cette idée que après l'hiver, il y a du renouveau et il faut garder espoir. C'est une culture très optimiste et qui n'a pas perdu son optimisme malgré tout. C'est quelque chose qui est très surprenant quand on va en Iran, l'optimisme des gens, de tout le temps essayer de voir. Alors il y a une forme de désespoir très évidemment qui est liée à tout le contexte. Mais de façon générale, les Iraniens sont des gens qui sont très optimistes et qui rient beaucoup. Donc il y a beaucoup de fou rire, beaucoup de voilà, c'est beaucoup de joie, de musique, et tout ça est lié à voilà. Je suis encore très digressive, mais c'est voilà, parce que c'est tout.
Mais je vous en prie, en fait, mais... Vous savez, les gens qui sont là ou qui sont devant l'ordinateur, c'est vous qui écoutent, donc allez-y.
Mais voilà, c'est tout ce rapport de ce que j'ai l'impression, c'est que ce rapport à la joie est aussi lié voilà à cet amour de la nature. Et ce qu'on pointe souvent, et ce qui est vrai aussi, c'est que l'Iran est une culture du deuil en miroir. C'est ça qui est assez surprenant. C'est que la mort, le deuil sont très présents. Par exemple, il y a les martyrs en Iran qui sont en photo partout dans les rues. Alors, il y a la dimension politique, évidemment, mais même au-delà de ça, c'est le rapport au chiisme et qui est une culture qui... La mort est un... a vraiment ces célébrations qui durent 40 jours. Et aussi, dans les enterrements, les gens dansent beaucoup. Donc, c'est vraiment mange beaucoup et pleure énormément. Et c'était intéressant parce que, justement, j'avais une conversation avec une amie et je disais que j'avais l'impression que dans les enterrements en France, par exemple, c'est mieux vu de pas exploser de sanglots quand on n'est pas la personne la plus proche du défunt. En Iran, c'est vraiment le contraire. On pleure avec la famille. Et donc,
on partage ses émotions.
Complètement. Ouais,
alors, vous l'avez dit, on mange beaucoup en Iran et on mange beaucoup dans votre livre. Moi, je ne vous cacherai pas qu'après avoir lu ce livre, j'avais qu'une envie, c'était habiter dans ma cuisine. Et donc, et il y a une chose rigolote que vous dites à propos des repas. Et on va revenir quand même sur le détail. Mais vous dites, il y a un équilibre de l'humeur. On mange des plats chauds, des plats froids, parce qu'en fait, on réfléchit. Enfin, voilà, les menus, les plats, vous invitent à réfléchir émotionnellement.
Après, c'est lié aussi à la théorie des humeurs de Hippocrate, mais c'est en tout cas dans la culture, dans la médecine persane et zoroastrienne, il y a cette idée d'équilibrer les plats. C'est pour ça que généralement, en Iran, il y a beaucoup de viande, et qui est réputée pour... en tout cas, c'est ce qui est dit dans la culture persane, ça rend plus nerveux, et donc à côté, généralement, les Iraniens prennent des laitages en même temps pour adoucir. Donc c'est l'idée d'équilibrer l'humeur. Et donc toute la cuisine iranienne est orientée autour de ça.
Alors quand on sort du jardin, qu'est-ce qu'on mange dans la rue ?
Quelque chose que j'aime énormément, c'est en automne surtout, vraiment vous voulez dire dans la street food, comme on dit, le fait
oui.
De... Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup en Iran, c'est les betteraves chaudes. C'est vendu dans des barquettes. On a l'impression de loin que c'est du foie ou quelque chose, c'est vraiment... Mais en fait, non, c'est des betteraves chaudes et c'est délicieux. Et ça, en fait, là, ça devient forcément un peu sucré quand on la cuit. Et c'est très agréable, on peut manger ça en marchant. Après, il y a les glaces, comme je le disais, oui. Notamment à Shiraz, il y a la tradition du faloudé, qui est une glace avec des vermicelles de riz. Et ça, on mange ça, les Shirazis mangent ça sur les places au printemps ou en été, sous des arbres fruitiers, pardon. Donc, il y a aussi ça. Après, on ne mange pas beaucoup dans le public en Iran. Comme il y a des cultures où vraiment, je pense par exemple à l'Inde, où il y a vraiment beaucoup de nourriture dehors. L'Iran, pas forcément. C'est encore une fois, la nourriture est quelque chose du partage de l'intérieur. Mais bon, après ça, je pense que je fais un raccourci. Mais en tout cas, c'est voilà. Il y a quelques éléments dans la rue, mais
oui,
assez peu en fait. Finalement.
Et vous l'avez dit tout à l'heure, en tout cas, on a commencé à en parler. C'est une culture passionnante pour ce côté intérieur-extérieur. Intérieur de la maison, extérieur de la maison. Mais c'est aussi toujours le chaud, le froid à table. L'écriture et tout ce que ça amène comme discussion et comme dialogue. Et en même temps, le moment en fait, où on est actif. C'est rigolo parce que vous semblez raconter aussi une culture comme ça qui a des moments presque plus précis du temps qu'on prend pour faire les choses.
Disons que c'est une culture qui est très donc sur le temps, axée sur les saisons, forcément. Il y a vraiment des rituels qui sont liés aux saisons. Et c'est mon impression, encore une fois, on parle d'un pays de 92 millions d'habitants, il y a des habitudes qui sont différentes. Mais ce qui m'a vraiment marqué en Iran, c'est le fait que les conversations s'étirent très longtemps, on mange très tard. Donc ça s'étire et c'est aussi une culture du débat. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi vraiment séduite et qui est lié, je pense, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, la littérature, le fait que ce soit un pays de bavards, je le dis avec beaucoup d'amour, mais on débat beaucoup. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi en Iran, c'est le fait que on construit ensemble. Enfin, ce que je ressens, c'est que le débat en Iran, c'est évidemment qu'il y a des disputes, qu'il y a des...
Oui, oui.
Mais qu'on est ensemble dans un groupe et on va construire une pensée ensemble, même en n'étant pas d'accord. On essaye d'avancer. Et là où d'autres cultures européennes de l'Ouest, et encore une fois, je dis ça avec beaucoup d'amour, mais il y a plus un côté joute. Et donc forcément oui c'est des conversations qui s'étirent et le temps s'étire, le temps est très long, il y a un rapport au temps que j'ai trouvé vraiment différent en Iran.
Et ça s'étire tellement qu'on est forcément en retard.
Ah oui, je sais où vous voulez en venir. J'ai dû apprendre en Iran à me canaliser sur mon obsession de quand on donne une heure, on est là à l'heure. Sauf qu'en Iran, quand on a rendez-vous avec des amis, absolument personne ne s'attend à ce que vous soyez là à l'heure. Donc ça m'est vraiment arrivé beaucoup de fois d'attendre une heure et demie des amis. Après, j'ai fini par apprendre la leçon. Mais c'est juste une façon de fonctionner. Et c'est généralement quand les gens vous disent « je pars de chez moi », c'est qu'ils vont être là dans très longtemps. Quand ils disent « j'arrive », c'est qu'ils sont en train de rentrer dans le métro. Donc il faut s'adapter en fonction de ça. Mais une fois qu'on le sait, en fait, encore une fois, c'est juste un ajustement culturel. Mais c'est vrai que ça m'a appris à devoir...
Ça vous a rendu plus sereine ?
Oui. Après, le naturel revient en galop très vite. Mais oui, oui. En tout
cas, cette histoire d'intérieur-extérieur, c'est intéressant pour une écrivaine, parce que finalement, c'est ça aussi l'écriture, non ? C'est le temps à l'intérieur de soi-même, finalement, et le temps à l'extérieur, non ?
Oui, et surtout en tant que femme, je pense que le rapport entre l'intérieur et l'extérieur est encore plus... particulier, voire compliqué, que c'était d'ailleurs l'objet de mon tout premier livre, Les oui. femmes aussi sont du voyage, vraiment cette question de l'espace extérieur. En Iran, c'est complètement décuplé. C'est vraiment, il y a l'extérieur et l'intérieur où les gens sont plus libres, forcément. Le rapport aux vêtements aussi pour les femmes. Les espaces féminins, en fait, sont des espaces plus agréables, où on peut plus dire les choses. Oui, en tant qu'écrivaine, forcément, mais je pense tout simplement en tant que femme au départ. C'est vraiment ça qui m'a marquée. Et je parle aussi beaucoup du rapport au mensonge en Iran, qui est quelque chose qui m'a... Peut-être si on peut donner un bémol, quelque chose que j'ai moins apprécié, et que j'apprécie toujours moins, c'est la facilité à mentir, pour aussi arrondir les angles, pour des fois juste nous ne pas nous mettre en... Des fois, en fait, les Iraniens mentent pour nous sauver notre... Enfin, pour sauver la face de leur interlocuteur ou de leur interlocutrice. C'est une façon aussi de montrer qu'on fait attention à l'autre. Donc, on ne va pas tout dire directement. Ça peut être très agaçant. Et puis, parfois, dans certains contextes, ça permet aussi d'adoucir et de rendre les relations humaines plus faciles, plus... Voilà, c'est pas... Je sais qu'il y a... Encore une fois, j'avais une discussion avec une amie iranienne qui me disait qu'elle trouvait que c'était vraiment de l'hypocrisie pure. Mais je pense que parfois, ça peut être bénéfique, notamment dans les relations du travail ou dans les relations familiales. Je pense que parfois, on ne devrait juste pas tout dire. Et les Iraniens savent mieux doser, je trouve, parfois. Mais ça peut avoir ses inconvénients. C'est que des fois, les gens nous mentent. Et des fois, on se dit, mais en fait, là, je sais que tu mens. C'est bizarre. En tout cas, moi, en tant que étrangère à cette culture, c'est... Mais... Voilà.
C'est particulier. Mm. Il y a quand même une culture de l'attention à l'autre qui est très forte. Vous l'expliquez dans votre livre. Et donc, on imagine que cette histoire de mensonge, entre guillemets, peut être liée à ça aussi. Vous parlez de générosité, comme rarement on lit dans la littérature sur la générosité, même de gens que vous ne connaissez pas. Voilà.
C'est omniprésent en Iran. C'est que vraiment... C'est aussi pour ça que l'Iran est un pays tellement facile pour voyager seul. C'est que les toutes premières fois où j'y étais, et que en fait on est tout le temps invité partout. Mais vraiment, enfin c'est dingue. On est dans un restaurant, on va avoir une famille qui va nous proposer de venir à sa table. Alors encore une fois, parfois ça peut être juste de la politesse, mais en fait les gens sont vraiment curieux. On vient tout le temps nous voir. Il y a le fait que la culture soit comme ça, et aussi le fait qu'ils soient tellement coupé du monde, tellement en demande en fait qu'on s'intéresse à leur culture et qu'on les aime pour ce qu'ils sont. Mais il y a une immense générosité en Iran. Et je dis aussi dans le livre que j'ai vraiment... En Iran, c'est vraiment l'endroit où j'ai eu l'impression d'être le plus aimée pour qui j'étais, tout simplement, d'être le plus comprise. Alors, c'est aussi dû au fait que j'ai rencontré notamment une amie merveilleuse qui a été on parlait d'histoire d'amour tout à l'heure, ça s'inscrit là-dedans. Mais oui, j'ai vraiment eu l'impression d'être regardée pour la personne que j'étais, vraiment pleinement, parce que les gens, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens qui se sont intéressés à moi et qui s'intéressent tout le temps aux autres. Et donc, les relations se font très facilement en Iran et elles durent vraiment dans le temps. Donc, voilà la puissance du lien, la puissance des relations, là où moi j'ai une personnalité qui a toujours été très plus vers l'intérieur et vers la solitude. C'est mon mode de fonctionnement le plus spontané pour moi. Et l'Iran, j'ai découvert aussi le plaisir de voyager en groupe, qui était au début un peu un cauchemar pour moi, mais j'ai appris à aimer ça, à juste être avec des gens, tout simplement.
Et dans votre livre, vous racontez beaucoup d'anecdotes, parfois qui sont très savoureuses, hein, sur la façon aussi dont vous pouvez rencontrer des gens à des moments que je qualifierais d'assez rigolos, ou indirectement par l'intermédiaire d'une amie qui a un accident de voiture. Bref, vous n'avez qu'à lire le livre. Est-ce que le voyage, le fait d'être justement à l'étranger comme ça, participe à multiplier les moments de doute? Et est-ce que ce doute est nourricier pour une écrivaine?
En fait, le voyage, c'est effectivement ça. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment toujours le mot que j'emploie, c'est le plaisir de douter, le plaisir de se débarrasser des certitudes, et le fait que le doute ouvre un espace de liberté qui est immense, là où les certitudes restreignent complètement notre espace physique et mental. Le doute permet de nous ouvrir à d'autres gens, à d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser qui sont pas toujours agréables, qui sont des fois qui nous bousculent très profondément, mais qui nous font avancer vers quelque chose. On sait pas très bien quoi. Je parlais tout à l'heure de ce gouffre duquel on tourne autour, et c'est vraiment ça, et de multiplier aussi les... Donc là, on sort vraiment de l'Iran, mais le voyage en général, effectivement, de multiplier en fait les façons de vivre, les façons de voir le monde, d'être dans le monde, construisent vraiment profondément. Là où... mais c'est très comparable pour moi avec la lecture. Vraiment, c'est vraiment le sentiment que j'ai aussi en lisant, de multiplier les fenêtres, tout simplement. On parlait tout à l'heure de maison, de multiplier les pièces, de multiplier les fenêtres, de les ouvrir en grand, d'enfermer certaines quand on a fini et que, en fait, ça nous plaît pas trop. Mais essayer juste de les avoir ouvert au moins une fois. Je pense qu'il reste toujours quelque chose, finalement. Et c'est, par exemple, quand on lit des livres, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent ce soir, je pense, on a tendance à complètement oublier ce qu'il y avait dans le livre, mais par contre, il reste toujours un sentiment et ça nous construit à notre insu, en fait. Ça nous mène vers quelque chose à notre insu. Et le voyage a aussi ce rôle-là, je pense. Enfin, en tout cas, cet effet-là.
Et c'est cet endroit-là qui vous intéresse en écrivant ?
Absolument. C'est l'endroit du doute, l'endroit de l'incertitude, la vulnérabilité, forcément. C'est pas toujours très agréable. Mais le moment où on doute, je pense que c'est là où on est toutes et tous, même sans parler d'écrire, où on est le mieux, en fait, dans le sens la personne la plus proche
de qui nous sommes.
Ouais.
On va revenir à Téhéran, on a mangé des betteraves chaudes, on va continuer de se balader, peut-être qu'on a rendez-vous pour prendre un thé avec quelqu'un, il y a des endroits où il y a plein de cafés qui donne envie de rentrer et on va boire du thé. Et je voudrais savoir pourquoi Téhéran, pourquoi particulièrement Téhéran.
C'est là où j'ai senti le plus un élan vital énorme. C'est une capitale, c'est une mégalopole, c'est immense.
Parce que je vous arrête, vous dites quand même aussi que pourtant c'est la ville qui va à contrario de tous les clichés orientalistes.
Oui, je dis que c'est l'anti. Enfin, je sais plus ce que j'écris, mais que c'est cette idée que c'est. Oui, que ça va à l'encontre de tous ces clichés. Parce que c'est une ville extrêmement moderne, très très jeune, très connectée, sauf en ce moment. Mais. Beaucoup d'art, beaucoup de café, de vie. Et la géographie, je crois que c'est aussi ça qui m'a... En fait, Téhéran est complètement enserré dans les montagnes. C'est vraiment, on est dans une rue, on tourne, et là, paf, il y a vraiment la chaîne de l'Alborz qui se dessine, et c'est absolument spectaculaire, surtout en hiver, quand elle est pleine de neige. Et quand ça commence à fondre, les neiges de l'Alborz, en fait, ruissellent. Jusque dans Téhéran, il y a tout un système de djoub. Et c'est comme des petits canaux, en fait, le long des routes, entre le trottoir et la route. Et donc, il y a toutes ces eaux qui passent. Et donc, ça fait des petites rivières dans toute la ville. Et ça, c'est vraiment la présence des montagnes. Et donc, la géographie a joué aussi sur ça. Mais ouais, l'élan vital, c'est vraiment ce qui m'a le plus fait tomber amoureuse de cette ville. Alors, ça implique aussi des inconvénients, comme des embouteillages monstres, une pollution extrême. Mais beaucoup de vie, beaucoup de bruit. J'aime les villes où il y a beaucoup de bruit et beaucoup de vie. Donc le Téhéran.
Et là, c'est réussi.
Oui.
Vous parlez aussi de géographie amoureuse. Parce que, bon, alors voilà, si on a rendez-vous par exemple à 17h pour boire le thé avec un amoureux ou une amoureuse, c'est pas évident, faut un peu s'organiser. Mais vous avez une façon de le raconter qui est très jolie. Vous nous dites, il faut trouver le moyen de rencontrer l'autre différemment, puisqu'on ne s'embrasse pas dans la rue.
On s'embrasse pas dans la rue, on peut éventuellement se toucher les mains, on voit beaucoup de couples comme ça. C'est aussi, voilà, la culture. L'Iran reste une culture du mariage beaucoup, donc tous les Iraniens et toutes les Iraniennes, en tout cas dans, enfin, Téhéranais et Téhéranaises, dans les milieux éduqués et notamment dans le nord de la ville, ont tous et toutes quasiment des relations avant le mariage, mais ça reste quelque chose qui est caché et surtout interdit. C'est interdit de vivre ensemble quand on n'est pas marié. C'est interdit d'aller dans des hôtels un homme et une femme sans être mariés. Donc il y a toute une géographie qui se met en place, des lieux cachés, dans les parcs, on en revient au parc. Ça fait partie de la gymnastique, mais après elle est tellement intégrée par la jeunesse iranienne aujourd'hui,
qui est inventive.
Très.
Et tant mieux. Maintenant, peut-être que, je sais pas, on pourrait aller dîner. Imaginons qu'on soit invité à dîner chez votre ami dont vous parlez. Alors, la question que j'ai envie de vous poser là, maintenant, c'est celle de savoir quel lien vous lie à ces amitiés. Parce que dans votre livre, on a l'impression que c'est une amitié presque comme les amitiés d'enfance, à la vie, à la mort.
Ah, c'est une très belle comparaison. C'est ce que je ressens. Il y a aussi le fait que, notamment pour cette amie dont je parle, c'est que j'ai vécu vraiment avec sa famille et que qui est devenue aussi en fait en quelque sorte ma famille. Et donc on a créé une relation de sœur. Et on a souvent, elle est passionnée de culture française. Elle est tombée amoureuse de la culture française. Elle parle très bien français. Et donc je pense que ça a joué sur le fait qu'on dit, on a souvent cette plaisanterie entre nous, on dit moi si j'étais iranienne je serais toi et toi si t'étais française, donc c'est vraiment comme un peu des ados, si on a la trentaine bien passée toutes les deux, mais oui il y a le fait qu'on ait tellement de fou rire dans les chambres le soir, enfin c'est et on a créé une relation très forte forcément
Voyez-vous une corrélation entre la dureté du régime et de la police des mœurs et l'intensité de ce genre de fraternité?
C'est possible. Peut-être qu'il y a un rapport aussi au présent qui est plus fort. Le fait que on sait que c'est plus difficile pour se voir, bien soit sûr. Moi de venir en Iran, soit elle de venir en France. Le fait que maintenant on puisse plus parler depuis maintenant 2 semaines, vu que au moment où on enregistre, l'internet est coupé depuis 2 semaines, ça fait que oui, il y a une instantanéité des relations, mais je réduirais pas cette,
oui,
c'est pas du tout ce que vous faites, hein, je pense, oui, il y a eu encore une fois, il s'est passé quelque chose entre nous qui a fait que, mais
un coup de foudre aussi.
Oui, totalement. C'est vraiment du registre du coup de foudre. Je m'en rappellerai toute ma vie, c'était à Chiros. Moi, j'étais en touriste là-bas, elle aussi, parce qu'elle était RNS. Et on s'est rencontrés et on ne s'est plus jamais quittés. Et ça fait 10 ans maintenant. Ouais.
Et alors, si nous prenons le train pour sortir de Téhéran, on ne part pas comme ça. On part avec, bien sûr, de quoi manger.
Oui, toujours.
Et pas n'importe quoi. Parce qu'en plus, on va partager. C'est-à-dire que les gens à côté de nous vont nous offrir un sachet de pistache facilement. Et on va prévoir. Alors, dans ce livre, il y a beaucoup de concombres. Il y a beaucoup de.
Parce que j'adore ça.
Ah, c'est ça. Voilà. Il y a beaucoup de fruits secs. Mm. Et puis, il y a des puddings. Moi, je rêve de goûter le pudding pistache, fleur de rose. Enfin, merci beaucoup. C'est malin. Hein. quand même, vous nous mettez l'eau à la bouche. Mais le voyage en train, tout d'un coup, devient une aventure en soi. Avant d'arriver, une aventure pour rencontrer les gens à côté. Pour sortir de la nourriture, enfin quelque chose, et rester en Iran vraisemblablement assez heureux, même dans le voyage, comme un partage avec les autres.
Et c'est même en fait excessivement mal poli d'ouvrir de la nourriture dans un bus ou un train ou même un taxi en Iran et de pas proposer aux gens qui sont autour de nous. Oui, il y a cette culture du partage et du voyage. Donc les Iraniens ont un passeport qui ouvre pas beaucoup de portes, donc ils voyagent beaucoup à l'intérieur du pays, et donc c'est des grands week-ends où on part, notamment quand il y a des jours fériés, tout le monde va au nord de l'Iran, c'est vraiment, et on peut rester 10 heures dans les embouteillages, tellement c'est un mouvement quasi tout le pays, enfin en tout cas une grande partie du pays part dans le nord de l'Iran, parce que c'est le nord de l'Iran, c'est les bords de la mer Caspienne. C'est un climat très agréable. Il y a du riz, donc c'est voilà ce genre de climat chaud, humide, mais aussi très voilà très luxuriant. La nature est très luxuriante. Et donc le voyage en Iran, c'est toujours une histoire où on met beaucoup de musique, et encore une fois, ouais, on rit beaucoup.
Contraire du TGV dans lequel on met ses écouteurs et où on lit peinard. N'existe pas. On partage avec les autres, en fait.
Ouais, il faut. Mais je suis plus à essayer à vouloir lire quand je suis dans le TGV, donc mais oui.
Et alors, si on est en retard, imaginons, on est en retard, je sais pas, pour aller à la gare, pour... donc on va monter dans un taxi. Il y a une culture du taxi. Et à propos des taxis, vous dites, monter dans un taxi, c'est comme aller chez quelqu'un et regretter d'être arrivé à l'instant où on est dedans. Alors expliquez-moi.
Ça dépend des taxis. Ça dépend des taxis. Mais parfois, oui, c'est très... parce que c'est aussi très prenant, ça va très vite. Je pense que c'est aussi le fait que je sois étrangère et donc on ne maîtrise pas toujours tout. Même si après, quand au tout début, c'était très difficile pour moi, les taxis. Et puis après, fil en aiguille, c'était plus facile. Mais oui, puis la décoration, il y a une ambiance particulière. Après ça, je pense que c'est propre à beaucoup de pays dans le monde. Les taxis, c'est toujours un univers en soi. Mais aussi, j'ai tendance à remercier les taxis parce que c'est aussi eux, quand je suis arrivée en Iran, qui m'ont vraiment obligée à parler persan au début. Parce que au tout début, quand j'hésitais beaucoup avec mes mots en persan, c'était à marche forcée, quoi. Vraiment, littéralement, ils voyaient que j'étais étrangère et donc ils me posaient plein de questions. Et vu que c'est souvent les mêmes questions, ça faisait une répétition. Et pour l'oreille, pour la pratique, c'était très... Donc, rien que pour ça, les taxis, je les remercierai toujours. Après, en Iran, c'est vrai qu'on prend beaucoup plus souvent le taxi qu'en France, parce que les prix sont pas les mêmes. Enfin, donc, ça fait vraiment partie du quotidien de prendre les taxis. Il y a tout un système de taxis. Il y a même ce qu'on appelle les taxis lignes. Donc, c'est vraiment des taxis qui vont toujours d'un endroit à l'autre, qu'on partage.
Mais j'adore ça. Vous nous expliquez qu'il y a... Pardon, je m'arrête, mais c'est quand même tellement rigolo. Il y a plusieurs façons de prendre le taxi.
Oui.
Et votre préféré à vous, c'est monter dans le taxi, qui est celui qui va aller tout droit.
C'est ça.
Et qui prendra les gens au passage sur la route.
Voilà. Exactement, c'est le taxi Mostarim en fait, et c'est des taxis qui se mettent sur une grande avenue et donc ils avancent et on leur demande Mostarim, et si c'est en fait c'est le temps qu'ils continuent et qu'ils sont tout droit, on peut rester dedans. Et c'est hyper pratique quand on est en retard ou quelque chose et on se met dedans et en fait ça nous permet d'avancer tout simplement.
Et de faire toute la... À propos du persan, j'y reviens parce que vous nous montrez aussi dans votre livre qu'il y a des ponts avec le français. De toute façon, vous nous expliquez bien que l'Iran, c'est 2000 ans d'histoire et de culture, comme vraiment le cœur du monde.
Et il y a eu beaucoup de liens pendant cette longue histoire avec la France. Et on retrouve beaucoup de mots français en persan. Notamment, une des façons très courantes de dire merci en persan, c'est merci. Donc là, c'est vraiment directement calqué du français. Et parfois, les Iraniens ne le savent même pas que c'est des mots français. Donc c'est vraiment complètement intégré. Après, il y a beaucoup, beaucoup de mots qui appartiennent à un registre qui est assez intéressant parce que c'est beaucoup... par exemple, cheminée, mini-jupe, robe de chambre, décolleté, chantage, scandale. Donc, c'est tout un registre, mise en scène. Donc, il y a toute ça aussi, toute une vision de la culture française. Enfin, ça correspond aussi à une époque où beaucoup de mots ont été importés. C'est aussi beaucoup le début du 20e siècle, les années folles et tout. Donc, ça correspond aussi un peu à cette époque. Et inversement, il y a des mots persans qui sont arrivés en français. L'exemple que je donne le plus souvent, parce que c'est vraiment un mot du quotidien, c'est pyjama, qui est passé par beaucoup de langues, qui allait d'abord en hindi, ensuite qui a été trouvé par les Anglais, et qui ensuite de l'Angleterre est venu en France, mais à la base c'est un mot persan.
Qui est un pantalon très large et très souple. Exactement. Avec lesquels les Anglais décident de dormir.
Voilà, qui à la base en Inde, c'est donc... Ça veut dire vêtement de jambe, pyjama, en persan ancien. Et en Inde, donc c'est un pantalon large qui est porté tous les jours. Et effectivement, les colons anglais, quand ils sont arrivés, ils ont dit « Tiens, ça a l'air très pratique pour dormir. » Et donc, c'est devenu pyjama.
Et donc, c'est devenu pyjama. Est-ce que vous avez toujours eu cette appétence pour l'histoire ? Parce que dans votre livre, vous nous renseignez beaucoup. Vous nous racontez beaucoup de l'histoire, de l'Iran, des endroits dans lesquels vous arrivez, d'un événement politique, de la culture sur l'écriture ou sur en fait un art particulier. Vous racontez. Et vous racontez l'histoire. Alors, c'est une curiosité permanente, j'ai bien l'impression. Depuis toujours, et une appétence pour l'histoire ?
Une passion pour l'histoire. Et puis au-delà du fait que juste ça m'intéresse, c'est aussi simple que ça, mais ça permet toujours de... Je trouve que ça explique beaucoup de choses. Et ça, par exemple, quand on lit l'histoire de l'Iran, on comprend pourquoi on en est là aujourd'hui,
oui, oui, tout à fait.
Quelles questions ça pose aussi. C'est pas si simple, en fait. Et, ça, et l'histoire permet toujours de, d'aller à l'encontre de notre... notre tendance à très naturelle au manichéisme, et on revient à la question du doute.
Oui,
et tout ça, et de, quand on lit l'histoire de l'Iran, il y a plus de choses qu'on comprend et qui nous éclairent. Donc, tout, mais je suis pas historienne, donc c'est vraiment, je m'aide des historiens, des historiennes qui ont écrit sur les sujets, mais tous mes livres sont énormément traversés par l'histoire. C'est impossible pour moi de d'aborder un sujet sans revenir à l'histoire.
Alors on va rentrer à la maison, il y aura un rayon de soleil qui va passer par des rideaux en dentelle, sur un tapis, parce que l'intérieur est quand même un endroit très fort. Vous avez des descriptions de maisons qui sont extraordinaires.
Effectivement, la lumière sur le tapis, c'est quelque chose qui est... J'ai vraiment ce souvenir du croissant, en fait, de soleil sur le tapis, et le fait de s'allonger dessus et de lire sur le ventre pendant des heures, c'est vraiment des moments d'intense bonheur pour moi, et encore une fois lié sûrement à l'enfance, mais l'intérieur des... Parce que aussi, c'est un cocon, en fait, les intérieurs iraniens. On mange beaucoup, on parle beaucoup, c'est... Et puis, pas que ça, il y avait aussi chez moi c'est de façon générale d'être chez soi dans un pays étranger, c'est une sensation qui est extraordinaire. C'est vraiment d'avoir fait soi un espace dans un milieu qui est pas le plus facile pour nous, qui est étranger par définition. Et donc, c'est comme un refuge, une base arrière avant d'explorer. C'est un moment où on se retrouve, c'est un moment où on peut rêver, lire. Donc l'intérieur en voyage, de façon générale, est toujours essentiel pour moi. La routine aussi, je parle beaucoup de la routine.
Oui, hein. Oui. Et alors, quel rituel avez-vous gardé ?
Le thé, c'est vraiment ce qui est né dans les voyages pour moi. Et,
vous avez un samovar ?
Oui. J'en ai un moderne et un ancien.
Ok.
Le thé, je pense que c'est ce qui fait le fil rouge aussi de... C'est pour ça que j'ai consacré un de mes livres au thé aussi, c'est que c'est ce qui fait ma stabilité quand je suis en voyage, vraiment des moments de retrouvailles avec soi-même, aussi avec les autres, ça peut être des moments de partage, mais le moment du thé qui a un fil conducteur qui va être le même où qu'on soit dans le monde, c'est un élément de stabilité dans une vie qui est pas toujours stable. Oui.
Et d'autres rituels ?
Essentiellement celui-là, la lecture. Mais bon, je sais pas si c'est un rituel. Mais...
Et alors, petite fille, vous étiez cette petite fille passionnée de quoi ? De conter légendes, à la fois de pour l'écriture poétique et en même temps pour l'histoire, le récit, l'apprentissage ?
Le récit et la lecture, je lisais de façon très très large. J'ai toujours lu de façon très large.
Vous étiez entourée de livres alors ?
Oui. Ah ouais, il y a toujours eu de chez mes deux parents, il y a toujours eu beaucoup beaucoup de livres, et notamment chez ma mère qui est grande lectrice, et donc le livre a toujours été aussi encore une fois ma stabilité, et c'est ça qui m'a amenée au voyage, parce que je viens pas d'une famille où on voyage, et donc j'ai cru pendant longtemps que c'était réservé aux autres, et le livre m'ont permis ça, et c'est vraiment très cliché, encore une fois, mais c'est Jules Verne qui a été le tour du monde en 80 jours. Je pense que j'ai dû le lire 30 fois quand j'étais enfant.
Ah oui ?
Ouais, ça m'a vraiment fait un choc, en fait.
Et, ça vous a vraiment tout d'un coup donné l'envie de partir ?
En tout cas, de m'intéresser à d'autres cultures et notamment de m'intéresser à l'histoire et les langues. J'ai toujours aimé les langues depuis toujours. À l'école, c'était toujours ce que je préférais. Ça a toujours... Donc, on retrouve quelques éléments dans mes livres.
Lucie Azéma, pour finir la journée qu'on vient de passer à Téhéran avec vous, au moment où vous vous couchez, quand vous êtes à Téhéran, vous pensez à quoi avant de vous endormir ?
Hmm. je pense, ce qui a beaucoup aussi marqué mes nuits à Téhéran, et j'en parle, c'est le rapport au monde des oiseaux.
Et au silence, vous dites aussi au silence.
Le silence, Téhéran est une ville très silencieuse, pas le soir.
La nuit.
La nuit, pas la journée. Et j'ai depuis très longtemps, j'ai des problèmes d'insomnie. Mais le fait de découvrir les oiseaux, le fait qu'il y avait des... l'oiseau national, si je peux dire, en Iran, c'est le rossignol, qui est un des premiers mots que j'ai appris en persan, c'est bol-bol. J'adore ce mot parce qu'on entend vraiment le son du rossignol, bol-bol. Et ça a été... C'est un oiseau qui chante la nuit. Il chante aussi la journée, mais il chante la nuit. Et donc, déjà, ça m'a frappée qu'en Iran... un oiseau si aimé, qui fait tellement partie de la culture persane, soit un oiseau qui chante dans la nuit. C'est très symbolique. Mais pour revenir justement à mes nuits en Iran, c'est le monde des oiseaux, et m'intéresser au monde des oiseaux, parce que c'est très très présent en Iran, cet intérêt pour les oiseaux, ça m'a aidé à comprendre qu'il y avait un monde la nuit, et que peut-être que si j'avais des insomnies, peut-être que c'était juste mon moment à moi aussi, et que de me rendre compte qu'il y avait une autre vie, que c'était juste on parlait de temps aussi tout à l'heure, que c'est un autre moment dans la journée. Ça m'a aidé. Je suis pas du tout réconciliée avec mes insomnies, c'est quelque chose qui continue de me faire souffrir, mais disons que ça a apaisé, je pense. Et le fait de, comme aussi les Iraniens veillent très tard, juste d'ouvrir sa fenêtre et de se rendre compte qu'il y a plein de fenêtres allumées, même dans la nuit. De me dire peut-être qu'il y a des gens qui sont encore éveillés ou qui n'arrivent pas à dormir, peut-être que c'est des jeunes parents, une jeune maman qui essaye d'endormir son enfant, enfin voilà, de me dire qu'il y a d'autres gens qui vivent la nuit, ça m'a aidée, et notamment les oiseaux.
Merci beaucoup Lucie Azima pour ce voyage extraordinaire.
Merci à vous.